Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h. Nous y sommes et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. L'interdiction de la marche pacifique pour rendre hommage aux victimes des dernières manifestations fait réagir plus d'un. La DMP, dans un communiqué, s'indigne et dit s'inquiéter sérieusement de ces entraves de la liberté de manifester. La DMP met en garde contre ces pratiques qu'elle qualifie d'inhumaines et irrespectueuses de la vie humaine. Comment appréciez-vous cette énième interdiction de cette manifestation de la société civile? Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et nous allons en parler dans cette émission, bien sûr. Et nous allons parler également d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux dans cette émission Club de la Presse. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Akuta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi. Lundi, ça rime bien avec Jacques Djakouti. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Oui.
J'ai vu quand même un oui. Oui, j'ai écouté un oui hésitant. Qu'est-ce qui se passe?
Non, bon, vous savez, tant qu'on a la vie, il faut toujours remercier Dieu. Mais il faut reconnaître que dans la vie, il y a également les à côté qu'il faut toujours gérer. Je voudrais profiter de ce micro pour saluer nos auditeurs et auditrices.
Ils sont très nombreux.
Ils sont nombreux. Certains sont actuellement sur les lits des hôpitaux. Où je leur souhaitais prendre guérison et nos auditeurs de la diaspora, les saluons également, ceux qui sont actuellement en train de nous écouter, certainement dans leurs bureaux, dans les taxis, partout, nous leur saluons. Et je voulais profiter de l'occasion, Pascal, pour nous interpeller. Ça, c'est une interpellation qui nous concerne tous. Et nous sentons de plus en plus que il y a la misère ambiante dans le pays. Et je voudrais inviter les uns les autres à la générosité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un quartier, vous êtes avec des amis qui ont souvent des difficultés à joindre les deux bouts, il faut vraiment les soutenir. Parce que ce à quoi nous sommes en train d'assister actuellement avec la jeunesse, c'est la dépravation totale. Et vous voyez dans les coins de rue, un peu partout, la chicha a encore repris, c'est la dépravation au sein de nos enfants. J'étais un peu attristé de voir une fille la dernière fois, une fille de 15 ans qui portait une grossesse. J'ai interrogé la petite, elle m'a dit que c'est un meunier qui l'a enceinte. C'est-à-dire que tout juste le meunier trempait la fille avec la farine qui
une
tombe.
Une fille de 15 ans?
15 ans, justement, vous voyez. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres. C'est un peu difficile, je sais. On me dira que c'est un peu difficile pour tout le monde. Mais il faut avoir cette générosité, l'ouverture de cœur de pouvoir aider les uns et les autres. Ceux qui le font, on leur souhaite de continuer par le faire, et ceux qui ne le font pas, il ne faut pas penser qu'il faut avoir, par exemple, peut-être 10 000 avant d'aider quelqu'un. Vous avez 1 000 francs, vous pouvez partager les 500 avec quelqu'un. Ne pensez pas qu'il faut avoir des milliards, des millions avant d'aider une personne. Le peu que vous avez, aidez une personne. Parce que quand vous allez actuellement à l'hôpital, c'est là que vous allez constater ce qui se passe réellement. Il y en a qui fuient lorsqu'on leur tend une facture pour aller payer un médicament. Ils fuient, laissent le malade là-bas. Vous voyez, et puis d'aucuns tombent également malades devant ces malades parce qu'on a prescrit un produit qu'ils ne peuvent pas acheter. Franchement, j'ai vécu ce genre de choses. Je voulais partager cela aux uns aux autres, ceux qui nous écoutent actuellement. On me dira que c'est chaud partout. C'est vrai que c'est chaud. Mais vous savez, au sein de cette chaleur, il y a souvent toujours un petit vent qui souffle quelque part, peut-être par une petite fenêtre, par une petite ouverture.
Un vent de fraîcheur.
Justement, qui souffle chez certains, quoi. Donc, plaise à Dieu que ceux qui sont à l'écoute actuellement fassent parler leur cœur. C'est le plus important. Donc, vous vous rappelez de la phrase fétiche de Monseigneur Feu, Monseigneur Barriga, qui disait que l'amour qu'on peut avoir pour l'autre, c'est de tendre la main vers son prochain. Donc, tendons la main vers nos prochains, nos semblables, pour pouvoir leur faire tirer d'affaire par rapport à la situation que nous traversons.
Alors, Jacques, ce que je sais, c'est que personne n'est si pauvre qu'il ne peut donner quelque chose. Ce qui veut dire tout simplement que nous avons aussi certainement quelque chose à donner. Mais toujours est-il que pour ce qui concerne la solidarité, la générosité, ces valeurs tendent à disparaître dans nos sociétés.
Je suis d'accord avec vous. Et puis, vous savez, donner, c'est un don aussi. Ce n'est pas donner à n'importe qui de donner.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le don de donner.
Oui, c'est comme ça. Et puis, vous savez, je ne vais pas aller sur le plan biblique ce matin, parce que souvent, ceux qui lisent la Bible, le Coran, il est dit souvent que la main qui donne, c'est elle qui est bénie. Vous voyez, donc, il ne faut pas attendre. Souvent, il faut reconnaître que certains en ont. Mais pour donner, c'est difficile. Il y a certains qui sont devenus des apagons, qui ne veulent pas du tout donner, parce qu'ils se disent que quand ils donnent, c'est comme s'ils sont en train de gaspiller ce qu'ils sont en train de faire. Mais les heures et les moments que nous vivons, Pascal, il est important que nous puissions vraiment faire parler nos cœurs par rapport à la solidarité, à la générosité, parce que bientôt encore c'est la rentrée, Pascal, c'est encore un autre coup qui attend encore les parents, donc franchement, c'est vrai, Pascal, également, que depuis un certain temps, avec le blocage du nouveau du gouvernement qui n'est pas encore proclamé et tout ça,
mise en place,
nos compatriotes qui ont souvent exécuté des marchés au sein des ministères, Les ministres ne peuvent plus signer, prendre des engagements pour des décaissements. Vous voyez que tout ça là, ça crée vraiment un problème. C'est ça qui fait que on sent vraiment que le pays a des problèmes. Et autre aspect, bon, on l'a évoqué ici la semaine passée, c'est les réseaux TikTok et tout ça là qu'on a également bloqué, ce qui servait également à nos sœurs, à nos frères de vendre un peu et avoir de l'argent, tout est bloqué. Les zones Wi-Fi et tout ça, tout est bloqué. Donc je crois qu'il faut vraiment que le gouvernement puisse avoir l'idée ingénieuse de pouvoir débloquer ces réseaux et former rapidement également le gouvernement pour débloquer les marchés, bloquer les factures impayées au niveau du trésor pour permettre effectivement à nos compatriotes de respirer.
Jacques Dacouti, merci, pour ces interpellations. Je pense que le message est passé. Les uns et les autres prendront ce qu'il faut prendre et aussi l'exécuter pour que ça change. Alors, nous sommes avec le Centre de formation au métier de l'industrie. Ce sont nos invités, bien sûr, aujourd'hui. Et nous sommes avec le directeur général, Jules Anani Gozo. Monsieur Gozo, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Bien, bien. Sûrement bien.
D'accord, à vos côtés. Ah ben, le sourire montre déjà que vous allez bien.
Je passe bien.
Je vais bien la sortie en bas.
va le prendre.
Tout à fait. Peut-être que c'est lui qui a. Justement, c'est lui qui a. Qui va assurer même d'ailleurs la troisième mi-temps, comme on le dit. Alors, vous êtes avec Madame Bernice Yesso Olu Adara. Madame, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien aussi.
Je vais bien.
Voilà, le sourire, ça démontre vraiment que ça va bien. Alors, monsieur le directeur, c'est vrai, nous allons parler alors du centre de formation au métier de l'industrie. D'abord, une question simple, hein, mais essentielle. Et quelle est la mission du CFMI, c'est-à-dire le centre de formation au métier de l'industrie, et en quoi se distingue-t-il alors des autres centres de formation au Togo?
Merci, chers auditeurs, auditrices, merci pour votre attention. Le CFMI est un dispositif, disons, une plateforme technologique, mise en place par l'État togolais avec l'appui considérable de l'Agence française de développement. Il est de la volonté des associations, des entreprises du Togo, comme le Conseil national du patronat, l'Association des grandes entreprises du Togo, l'Association des industriels du Togo, l'AFCET, l'Association femmes chefs d'entreprise du Togo, le port et le ministère de l'économie, le ministère de l'enseignement technique, le ministère du développement de la base. L'objectif premier, c'est de mettre un outil à la disposition des jeunes afin de favoriser leur insertion professionnelle, c'est-à-dire former, donner une formation de qualité aux jeunes pour qu'ils puissent desservir l'économie nationale. Donc c'est dans ce cadre qu'ils se sont approchés de l'État et des bailleurs qui ont financé aujourd'hui ce dispositif qui a déjà 10 ans, qui forme les jeunes. Nous sommes déjà à une cohorte de 1000 jeunes qui aujourd'hui sont...
1000 jeunes.
1000 jeunes qui sont déjà formés parce que le CFMI a été inauguré en mai 2016 par le chef de l'État. Donc, ça a permis de former pas mal de jeunes parce que c'était un peu un cadre bien structuré, unique de la sous-région. Et on a un parcours unique, c'est-à-dire on formait les jeunes en 14 mois et qui desservait. Donc, un peu partout, vous allez voir les jeunes du CFMI qui interviennent dans les entreprises industrielles. Partout. Hein. Bon. Il y a également l'autre volet, c'est nos entreprises industrielles qui sont déjà installées. Et les techniciens, le monde évolue, la technologie change. Et la formation doit être continue, c'est-à-dire essayer toujours d'apporter quelque chose à ces techniciens pour qu'ils puissent répondre aux besoins de l'heure. Donc, c'est dans ce cadre que nous formions aussi les techniciens des entreprises, nous les renforçons dans le domaine industriel également, et tout ce qui est également service que nous apportons, parce que nous avons des équipements de haut niveau, et nous offrons également cette possibilité à ces entreprises de venir fabriquer, travailler sur nos équipements, afin de pouvoir se pérenniser. Voilà, c'est ça. C'est un investissement, donc ça pérennise.
Tout à
voilà,
fait. Alors, tel que vous l'avez expliqué, est-ce que ce centre est-il un centre privé ou public? Et également, comment ça se gère?
Oui, merci pour cette question. Le centre, c'est un partenariat public-privé. C'est-à-dire, je viens de citer les ministères, le patronat togolais, le CCI Togo, qui se sont constitués en association pour piloter ce joyau. Donc, c'est un partenariat public-privé, donc avec une gestion déléguée et avec une autonomie de gestion. Donc, le directeur, il est recruté par un concours, disons, à travers un cabinet, puis, bon, c'est ça, on travaille, le personnel est du secteur privé. Donc, voilà, c'est un dispositif de ce genre. Et sa particularité, c'est que c'est un dispositif qui est soutenu par les donneurs d'ordre. Quand on parle du patronat, on parle de l'AGET, on parle de CCI Togo, ce sont les patrons qui sont revenus là-bas. C'est eux qui nous donnent les grandes les orientations avec lesquelles nous travaillons pour préparer les jeunes afin qu'ils puissent répondre aux besoins du marché et de l'économie. Voilà.
Madame, quand on parle alors de CFMI, quelles sont les formations, les différents modules de formation qu'on peut retrouver?
D'accord. Alors, à la base, nous faisons le brevet professionnel qui est le BP, c'est-à-dire après le bac, l'apprenant vient au CFMI par concours, bien sûr, et fait 14 mois. 5 mois au CFMI, 2 mois en entreprise, il revient faire 5 mois au CFMI et encore 2 mois en entreprise pour avoir le diplôme qu'on appelle le brevet professionnel. Mais à partir de l'année passée, nous avions mis en place deux parcours, le parcours bac professionnel et le parcours BTS brevet de technicien supérieur. Alors, pour ces trois parcours, nous évoluons dans différentes filières, dont la mécanique diesel, l'électromécanique, la mécanique industrielle, la chaudronnerie, soudure, la climatisation et froid industriel, eau et assainissement. Et en dehors de ces trois types de formations, nous donnons aussi les formations de courte durée, qui sont de l'apprentissage. C'est des formations qui partent de 6 à 9 mois, contrairement au bac professionnel qui fait 3 ans, c'est-à-dire vous venez avec le BPC, vous faites 3 ans pour avoir un bac professionnel. Le BTS, vous venez avec un bac, vous faites 2 ans pour avoir votre brevet de technicien supérieur. Mais au niveau de la formation de courte durée, c'est de l'apprentissage qui va à l'endroit des jeunes déscolarisés ou encore des jeunes ayant le bac, mais qui veulent un métier, qui veulent une autonomie professionnelle rapide, qui veulent s'insérer rapidement. Alors, c'est de 6 à 9 mois. Et nous les donnons dans différents métiers. C'est une liste non exhaustive où on peut trouver les plombiers, les mécaniciens, électriciens, chaudronniers, etc. Tout ce qu'il y a comme métier industriel, métier technique.
Alors, est-ce que ces métiers dans lesquels vous formez, est-ce que aujourd'hui ce sont des métiers porteurs?
Effectivement. Parce que quand je prends par exemple un électricien, on ne peut pas se réveiller du matin jusqu'au soir sans une intervention électrique ou installation. La même chose pour un mécanicien. Donc, c'est des besoins récurrents, c'est des besoins quotidiens, c'est des choses que nous ressentons chaque jour. Alors, ces métiers, c'est des métiers porteurs où on ne peut pas chômer, on ne peut pas manquer de travail.
Ce qui veut dire que si, en tant que jeune, après avoir eu mon bac, tout de suite, je préfère... fait le CFMI, ça veut dire que si je choisis un métier, ce métier sera bien prisé sur le marché.
Effectivement, nous avons des évidences, nous avons des gens qui sont déjà passés par ce parcours et qui profitent bien des compétences acquises au CFMI, qui jouissent bien, qui sont bien insérés dans la société.
D'accord. Alors, monsieur le directeur, parlons maintenant des ressources. Et quelles sont les ressources matérielles, pédagogiques et humaines du CFMI?
Merci. Je vais commencer avec les ressources humaines, c'est-à-dire le CFMI est... Les formateurs dont on parle du CFMI, ce ne sont pas des professeurs, mais ce sont des gens, des techniciens, des ingénieurs qui ont au moins 15 ans d'expérience pratique dans les entreprises ou bien dans les industries du secteur privé. C'est eux qui ont une attitude pédagogique, qui sont cooptés, formés à Lyon, en France, qui sont accompagnés ici. C'est eux qui forment les jeunes. Donc, on parle des gens qui connaissent, et qui exercent déjà le métier. Donc, c'est eux qui enseignent les jeunes, qui forment les jeunes au CFMI. Le plateau didactique, didacticiel et formation, c'est un plateau unique dans la sous-région. Je ne vante pas. Mais pour dire, même dans la sous-région, c'est unique. Si on reçoit les gens de partout, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, qui viennent s'inspirer de ce modèle. Donc, on a un plateau, c'est comme si vous êtes à l'entreprise, sur lequel les jeunes travaillent, s'y mettent. C'est-à-dire, après la théorie que vous faites dans la salle, 30%, vous rentrez dans l'atelier, vous exercez. On vous met en situation réelle. Et quand on parle également de l'insertion, c'est comment on gère ça? C'est-à-dire, nous faisons réellement, régulièrement des études de marché. C'est-à-dire, on est appuyé par le secteur privé, on est appuyé par l'État et par les bailleurs, ce qui nous permet de temps en temps de faire des études de marché, d'aller vers les entreprises, surtout que ce sont les entreprises qui pilotent le centre. On est à l'actualité et les besoins qui viennent de l'entreprise sont reçus, analysés, et ça nous permet de revisiter le curriculum. Donc, actuellement, là où nous sommes, il y a un financement qui nous permet de revisiter le curriculum de 3 ans de cela pour que ça s'adapte réellement aux besoins de cette entreprise. Il faut voir aussi les investissements qui sont actuellement au niveau de la plateforme de PIA. Tout ça, là, ça nous interpelle et nous, on s'adapte par rapport à cette réalité pour proposer des parcours, disons, qui permettent aux jeunes de facilement de s'intégrer dans le tissu économique du pays.
D'accord. Madame, si quelqu'un finit sa formation au CFMI, est-ce que cette personne est, je veux bien sûr utiliser ce terme, est-ce qu'il est consommable par les entreprises directement?
Effectivement. Au CFMI, la particularité est que nous faisons 80% de pratique et 20% de théorie. C'est de l'apprentissage, en fait. C'est pas des compétences académiques, non. C'est de l'apprentissage. Un technicien ou bien un apprenant qui finit, qui obtient son diplôme au CFMI directement, il peut travailler en entreprise.
Voilà. Mais est-ce que les diplômés peuvent aussi, monsieur le directeur, oui. Est-ce que ces diplômés peuvent-ils aussi continuer les études ailleurs?
Oui, mais les miens sont un peu partout au Canada. Mais l'immigration canadienne, le projet, vous avez vu il y a une année de cela, ça concernait le Bénin, certains pays. Le Togo est éligible à cause du CFMI parce qu'il y a bon nombre de nos jeunes qui sont finis au Canada, en Allemagne. C'est ça qui a attiré le bureau qui est au Sénégal, à Dakar, de descendre à Lomé, discuter avec le ministère du Travail et commencer à travailler avec le CFMI. Nous avons des partenariats avec les réalités universitaires de Londres, disons du Royaume-Uni, nous en avons avec l'Albanie, avec l'Espagne, nous en avons avec certains pays, la Mauritanie, et le Sénégal, où les mêmes réalités fonctionnent depuis, disons, 15 ans, et nous travaillons en synergie afin de pouvoir outiller, nous harmoniser dans l'approche qu'il fallait pour régler cette problématique de l'insertion professionnelle des jeunes.
Donc ça veut dire qu'il y a cette harmonisation au niveau alors du curricula.
Du curricula, ce qui fait que le jeune issu du CFMI peut continuer à l'extérieur ou sur le plan national, puisque le diplôme, le parcours, vous savez, c'est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Enseignement technique. Ce n'est pas un diplôme qui demande après une homologation. Non, c'est directement les autorités, c'est un diplôme étatique reconnu sur le plan international. Voilà ce que nous faisons au CFMI.
Maintenant, comment la formation se déroule au CFMI? Est-ce que c'est en présentiel ou plutôt en ligne? Et comment ça se déroule?
Ok. Au CFMI, la formation est bien sûr en présentiel. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est 80% de pratique. Nous avons des équipements, du matériel qui est là, avec quoi les apprenants arrivent à acquérir des compétences. Alors, c'est comme dans les autres centres, les apprenants viennent c'est du lundi à vendredi, du matin à 7h, de 7h à 16h, avec deux pauses. Une pause à 10h et l'autre pause à midi.
Et il y a aussi des activités extra-professionnelles.
Bien sûr.
Extra-académiques.
Bien sûr, il y a des sorties d'entreprise et on les met en situation. Il y a des événements de football. Il y a des ateliers d'entrepreneuriat. Il y a même au sein du CFMI une police environnement qu'on a mis en place pour apprendre aux jeunes la prise en compte des enjeux environnementaux aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un milieu industriel, vous n'êtes pas sans savoir que l'environnement nous concerne beaucoup. Donc il y a une unité, une police au sein même du CFMI que nous avions mis en place, qui font des déplacements ailleurs pour aller sensibiliser, parler effectivement de ce problème-là.
Monsieur le directeur, si pour ces gens-là qui nous écoutent, si il faut leur dire de venir alors s'inscrire ou inscrire leurs enfants au CFMI, qu'est-ce que nous allons leur dire? Est-ce qu'il y a aussi des dates clés à retenir?
Oui, et nous avons démarré depuis le 25 juillet passé les processus d'inscription. L'inscription va se terminer le 3 de septembre. Donc, c'est dans ce délai-là que les jeunes doivent venir faire le dépôt des dossiers. Nous sommes au niveau de ce total, au cœur de la zone industrielle. Donc, c'est un concours de l'État, puisque le CFMI fonctionne avec des bourses de l'État. C'est-à-dire, les foyers, ils ont pratiquement 35% de la charge du parcours, des frais scolaires à payer. Donc, les restants 30% sont attribués par l'État. C'est pour cela qu'il faut un concours. Et puis, nos places sont très limitées, puisque nous vantons, vous le savez bien, tout processus de formation finit avec l'insertion professionnelle. Ce n'est pas le diplôme pour nous, parce que nous, on ne dit pas taux de réussite. Non, on ne peut pas vendre ça. C'est l'insertion. Et nous sommes à 70%. 70%.
Mais est-ce que ça veut dire que si ce centre n'existait pas, il fallait vraiment l'inventer?
Sûrement, il fallait l'inventer. Parce que c'est une réalité aujourd'hui qui a fonctionné. Parce que même les gens, pourquoi ils ont voulu le CFMI? Parce qu'à un moment donné, on ne trouve plus les électromécaniciens, les experts, les chaudronniers d'un certain niveau au Togo. Même la construction de nos infrastructures, il y en a besoin. Donc c'est pour cela que les entreprises elles-mêmes se sont déplacées pour aller vers l'État, vers les bailleurs, pour qu'on puisse mettre en place ces dispositifs. Qu'est-ce qui est unique? Les Guyanais viennent s'inspirer, il y a le Burkinabé, eux ont aussi leur réalité. Mais le projet CFMI est unique. je dis, en termes de budget, en termes d'orientation, de gestion, de pilotage. C'est-à-dire, ce sont les entreprises elles-mêmes qui pilotent. Donc, ce qui veut dire que les besoins sont connus. Nous ne formons pas pour former. C'est-à-dire, on sait déjà les besoins, on les analyse. On sait que dans tel secteur, il faudra préparer 50 jeunes. Et cette filière-là, on prépare uniquement 50 jeunes pour ces entreprises. On ne forme pas les jeunes qui vont se créer. Non, non, non. On les forme uniquement pour ça. Et nous intervenons parce qu'ils sont accueillis en stage, qui est constitué un moment de formation en entreprise. Ce n'est pas un stage pour un stage où le jeune va là-bas, on lui donne, on demande de faire quoi que ce soit. Non. Il va avec un programme, il suit le programme, il s'applique, il fait son plan. Et d'ailleurs, au CFMI, il vient avec un plan de carrière. Le jeune qui est se fait faire un plan de carrière.
Ah bon?
Il fait un plan de carrière. Vous êtes là pour faire quoi? Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour évoluer? Le parent signe le même document, il s'engage avec l'enfant. Et nous, on l'accompagne. Il fait l'économie d'entreprise, il fait l'organisation du travail. Il y a des parcours soft skills qui lui permettent de se mettre pour son propre compte. Voilà le CFMI. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire à ces jeunes, on ne développe pas, on se développe. Choisissez les métiers porteurs, choisissez votre avenir en devenant un jeune technicien de ce pays. Ça dit, l'université reste toujours ouverte. Hein, parce que même à 100 ans, on peut y aller. Mais aujourd'hui, si vous avez un métier et vous avez l'ambition de devenir un littéraire ou bien un philosophe, vous pouvez toutefois faire ça. Mais vous devez avoir les moyens. Parce qu'aujourd'hui, les ressources sont rares. Et l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui avec le CFMI, c'est que nous devons pousser les jeunes à saisir, à avoir une certaine technicité. C'est-à-dire, savoir faire quelque chose. Sûrement, avant de entreprendre même peut-être un métier de rêve. Mais aujourd'hui, ce sont les moteurs porteurs. Vous avez ce qui se dessine sur le plan national, les investissements qui sont en cours. On traite l'eau, c'est-à-dire l'eau, c'est la vie. Tout ce qui concerne le secteur de l'eau, le secteur de l'électricité, le secteur de l'agricole. Le CFMI regroupe tout ça là. Si vous voulez, dans les BTP, c'est un centre qui a des parcours de formation, un centre industriel. C'est-à-dire, il y a un parcours avec des métiers transversaux que le jeune peut faire. Peut aller travailler dans n'importe quelle unité agroalimentaire, plasturgie, et ainsi.
Justement, monsieur le directeur, c'est vrai que votre intervention suscite une question en moi. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons plus, alors, notre système éducatif nous amène plus à la théorie. Oui. Mais là, quand quelqu'un peut-être qui a fait l'enseignement général et qui vient au CFMI, quelle doit être cette orientation que vous devez lui faire pour qu'il fasse quelque chose alors de pratique?
Oui, et ce que nous faisons d'habitude, c'est qu'on le met en situation réelle. On lui dit, voilà ce qui est l'autre affaire. Il y a les jeunes qui accueillent ceux qui viennent également. On les fait visiter les entreprises pour voir ce qui se passe. Et on lui pose une bonne question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Il dit rien. Alors, voilà les métiers. Voilà, si vous entreprenez la formation dans le domaine de froid, vous pouvez vous mettre pour votre compte. Si vous êtes électromécanicien, vous allez travailler dans une entreprise. On essaie de les expliquer et présenter nos statistiques par rapport à l'insertion des jeunes. Voilà, tel métier, voilà. Là où sont les ENER, la SNPT, le contour global, et ce sont nos partenaires. Si vous allez à GL aujourd'hui, les grutiers, tout ça là, les maintenanciers, tout ça, ce sont les CFMIS. Ils sont une trentaine là-bas, c'est eux qui maintiennent. Webimètre pour la fabrication des véhicules, ce sont eux qui sont là.
D'accord. Merci beaucoup. Oui, madame, pour convaincre aussi ceux qui nous écoutent actuellement, qu'est-ce que vous allez leur dire? Peut-être il y a des gens qui sont encore hésitants par rapport même d'ailleurs à ce pas fait pour venir au CFMI. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Peut-être qu'avec une voix de dame ou une voix de femme, ça serait plus convaincante.
Alors, nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, aller à l'école, avoir le master, le doctorat, ne veut pas forcément dire obtenir un emploi. Donc, il y a des gens qui ont des masters, mais c'est le métier qu'ils ont appris ou des formations de 6 mois, de 2 semaines qui leur donnent à manger. C'est une réalité qu'on n'a pas besoin de trop parler pour pouvoir convaincre les gens. Alors, au CFMI, nous faisons de l'apprentissage, nous donnons des métiers qui permettent aux gens d'avoir une autonomie financière assez rapide. Qui ne vous laisse pas dans les problèmes de chômage, du stress, des finances, du besoin ou encore. C'est ça aujourd'hui qui fait que les jeunes sont laissés et les jeunes sont laissés et à leur propre compte et au banditisme. Ça donne à des trucs qui ne doivent pas normalement s'adonner. Mais lorsque la personne possède un métier, ça le retient à faire certaines choses. Et pour ajouter, je vais parler aux femmes parce que je suis femme. Vous savez, le milieu industriel est généralement attribuées aux hommes. On pense que les femmes ne peuvent pas réussir dans ce milieu. Une femme ne peut pas être mécanicien, électricien, etc. Mais au CFMI, nous prouvons le contraire.
Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont formées.
Effectivement, il y a des femmes qui sont formées, qui sont compétentes, qui saisissent beaucoup d'opportunités, et qui s'insèrent vraiment très, très, très facilement. Parce qu'en entreprise, elles fascinent. Par leurs compétences, leur motivation. Vous savez, la femme, quand elle veut donner, elle donne à 100%.
Elle donne tout.
Et donc, elle fascine dans l'exercice du métier. Donc, j'encourage vraiment les femmes. Et au CFMI, pour les encourager d'ailleurs, nous les avons exemptées des frais d'inscription. Pour les frais d'inscription pour le concours, les hommes payent, mais les femmes ne payent rien. Donc, j'encourage vraiment les femmes à venir au CFMI.
C'est une promotion du genre. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Voilà, quelqu'un parle déjà de l'injustice. Didier Assoba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Oui, par la grâce.
D'accord. Mais merci beaucoup, monsieur le directeur. Si vous avez un mot pour terminer cette discussion.
Oui, c'est de remercier les auditeurs et auditrices qui nous suivent depuis le foyer, leur maison, les entreprises, les radios. Et également, joyeux anniversaire, puisque le CFMI aussi fait 10 ans. Donc, c'est un moment unique et je voudrais encourager les foyers. Vous parliez de la solidarité, je crois que c'est très important. Et c'est ce que nous cultivons également au CFMI, comme environnement, comme culture, comme milieu social pour que les jeunes s'intègrent mieux pour le développement donc de notre économie. Donc nous encourageons les jeunes qui sont encore à la maison, qui nous suivent, d'entreprendre les chemins du développement de son autonomie et de venir au CFMI pour se former.
D'accord. Merci beaucoup, Jules Anani Gozo. Merci d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de formation au métier de l'industrie CFMI. Merci d'être passé. Madame Bernice Yesso Olu Adara, merci d'être passé aussi dans cette émission. Je rappelle que vous êtes la responsable alors de l'unité de relations avec les entreprises au Centre de formation au métier de l'industrie CFMI. Merci d'être passé. Toutefois, vous pouvez rester avec nous, peut-être déjà à midi, nous allons donner la parole à nos auditeurs. Certainement qu'ils auront des questions à vous poser. Là, vous pouvez rester avec nous. Jacques Diakouti, rebonjour.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous avez une question pour nos amis.
Non, je crois que pas une question, mais dire que c'est ce que nous attendons, au fait, de nos enfants. Quand, pour ceux qui connaissent un peu, il a parlé des curricula en Allemagne, même au Ghana à côté ici, savent aujourd'hui que un Ghanéen même, lorsque vous le voyez, il sait faire déjà quelque chose, il peut fabriquer quelque chose. Donc moi, j'encourage effectivement les parents à s'inscrire maintenant dans cette ligne-là. Parce que, Pascal, c'est vrai d'avoir le bac aujourd'hui. Vous pouvez avoir un bac, mais qui ne peut pas vous servir parce que vous n'avez pas choisi un créneau porteur. Vous ne vous êtes pas formé à un métier pour savoir ce que vous voulez aujourd'hui. Quand vous jetez un coup d'œil aujourd'hui dans ce qui se passe dans le monde, vous êtes obligé d'apprendre ou bien de connaître un métier aujourd'hui. Vous voyez nos compatriotes qui quittent le Togo pour aller par exemple en Europe et autres. Arrivés, avant que certains ne quittent ici, ils apprennent la coiffure, d'autres la couture, d'autres la mécanique. Et quand ils vont là-bas, ils arrivent simplement à pouvoir intégrer l'atmosphère effectivement du travail là-bas. Mais ceux qui restent, par exemple, au boulot, qui se disent qu'ils travaillent dans les bureaux et autres, quand ils vont, pour s'insérer, c'est un peu difficile. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le monde nous ouvre les yeux par rapport à ces créneaux dont ils viennent de parler tout à l'heure. Moi, je les félicite. Invitez les parents à s'inscrire aujourd'hui dans cette droite ligne-là. Parce que, Pascal, aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous pouvez avoir des diplômes, mais si vous ne savez pas faire quelque chose, vous ne pourrez pas vous en sortir. Et aujourd'hui, un seul métier
puisqu'on
ne peut même pas vous
faire. Cette société anglophone, bien sûr, on vous pose la question, qu'est-ce que vous savez faire?
Non, moi, je crois que c'est une très bonne initiative que nous encourageons. Vous avez posé une question parlant de la formation, c'est vrai. Mais il faudrait que, dans les années à venir, puissent réfléchir pour voir comment faire ce genre de formation-là en ligne. Parce que les gens sont dans des pays, quand ils écoutent ce genre de choses, ils veulent le faire. Mais pour se déplacer, venir à Lomé, ça serait un peu compliqué. Moi, je crois que peut-être qu'il peut faire les cours et la théorie après. Les gens peuvent suivre ces cours-là en théorie et la pratique, venir faire ces pratiques-là et retourner après dans leur pays. Je crois que C'est des choses également qu'il faut explorer, aider nos compatriotes qui sont là, qui veulent également le faire, au lieu de se déplacer sur les cours en ligne et venir faire la théorie et la pratique qui servent.
D'accord, merci beaucoup Jacques. On va quitter le sujet et on va s'intéresser maintenant à ce sujet que j'évoquais déjà dans mes mots introductifs. Je disais, c'est vrai que normalement la société civile devait faire une marche pacifique le 9 dernier, c'est-à-dire le vendredi, mais pour une troisième fois, cette marche a été refusée, l'interdiction. Il y a professeur Dosset qui a reçu même d'ailleurs l'interdiction ici au club de la presse. C'était le vendredi, enfin c'était le jeudi dernier quand nous faisions même l'émission où on lui a envoyé justement ce courrier et pour ce qui concerne alors l'interdiction de cette marche pacifique. Alors quand on prend le sujet en tant que tel, on se pose aujourd'hui la question de savoir en quoi cette marche pacifique pourra-t-elle germer.
Peut-être avant de répondre à cette question-là, il faut peut-être essayer de faire les analyses pour dire que quelles peuvent être les implications et les conséquences justement de ce genre d'interdiction. Alors nous venons de traverser une situation dans le pays, notamment dans le mois de juin, et qui a conséquemment amené les autorités à restreindre encore plus un certain nombre d'espaces de liberté, espaces publics, notamment numériques aujourd'hui où, avec la connexion Internet, il est difficile d'avoir accès à un certain nombre d'espaces publics. Et le débat continue son cours. Et tout le monde continue d'interpeller les autorités sur les dangers possibles d'une telle attitude qui consiste à systématiquement interdire des activités, soit de partis politiques, soit des organisations de la société civile, des activités qui devraient permettre aux uns aux autres de se vider peut-être, de parler et d'exprimer leur désaccord sur la gestion du pays ou l'action gouvernementale. Mais si on continue de systématiquement de les interdire, mais ce qu'on a vécu en juin, ça veut dire qu'on pourra peut-être revivre ça un jour, un autre mois, une autre année. On pourra restreindre les choses telles qu'on les restreint. Depuis 2019 notamment, je rappelle que depuis la modification de la loi sur les manifestations, les réunions, les manifestations publiques, il a été compliqué, alors là très compliqué pour les partis politiques d'opposition et tout ça de faire des manifestations jusqu'à ce que les jeunes ne trouvent cette faille-là pour organiser ce qu'ils ont organisé au mois de juin. Nous avons compris que c'est assez dangereux pour nous de ce que il y ait de ces failles-là qui s'exploitent et que des gens se donnent un peu dans ce qu'on peut appeler l'illégalité. Et j'avais dit ici, on ne peut pas répondre à l'illégalité, pas l'illégalité. Mais ce que moi je voudrais dire aux autorités, c'est que nous sommes quand même une république et je crois que la Constitution continue de consacrer ce principe-là. Et donc, dans la République, il n'y a pas qu'une pensée unique, il y a des pensées. Il n'y a pas qu'une vision unique, il y a des visions. Et à partir de ce moment-là, tant qu'on n'a pas consacré dans la nouvelle Constitution, parti unique, un certain nombre de choses, ça veut dire que, et j'avais déjà dit ici la dernière fois que la nouvelle Constitution est une constitution partisane entre griffes parce que c'est une constitution qui est basée aujourd'hui sur le fonctionnement des partis politiques. On a dit le parti qui est majoritaire, c'est le parti qui désigne pratiquement l'ensemble de ceux qui doivent prendre les postes de gestion. Donc ça veut dire qu'on devrait laisser les partis politiques travailler sur le terrain pour être en mesure demain d'aller conquérir l'électorat pour que soit le chef de parti majoritaire ou on a même dit chef de file de l'opposition. Un certain nombre de choses, ça veut dire que la Constitution est bâtie sur le principe de fonctionnement des partis politiques. Parce que si Unir aujourd'hui majoritaire et les députés de Unir majoritaire à l'Assemblée nationale désignent le PC et que ils sont également majoritaires un peu partout, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, donc c'est leur voix qui concourt aujourd'hui à élire le président de la République. Ça veut dire que tout ce qu'on a aujourd'hui comme poste clé dans le pays dépend de la façon dont le parti Unir fonctionne. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut laisser les partis politiques travailler. Il faut laisser les organisations, groupes de pression travailler pour éviter que des gens de l'extérieur ou même d'autres entités, peut-être ceux qui ont fait des appels pour les manifestations de gens, on les connaissait, c'est des influenceurs, c'est des artistes de la chanson, c'est des gens qui ont un visage découvert, on les connaissait sur les réseaux sociaux. Mais demain, si on continue d'interdire tout, qui sait s'il y a d'autres entités qui pourront trouver des moyens de, je ne sais pas ce qu'on peut dire, est-ce que c'est manipulé, est-ce que c'est, je ne sais pas, mobilisé. On a parlé de tentatives de déstabilisation. Mais c'est des choses qu'on ne devrait pas souhaiter pour notre pays. Et pour ne pas souhaiter que des gens soient dans, trouvent des raisons pour être dans la défiance et même poser des actes qui sont contre l'intérêt même de leur pays, je crois que les autorités gagneraient à encadrer une manifestation, enfin une marche, hein, quand vous voyez le parcours de l'itinéraire de la dernière fois. Yesu Vito et Megakoto, voilà.
Abel Aguin,
c'est à peine 200 ou 300 mètres, ou 400 mètres tout au plus. Donc, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de policiers pour encadrer une manifestation là, pour que des gens aillent déposer des gerbes à des endroits où on a trouvé des corps, pour que justement, aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous voyez, aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais à chaque fois qu'on offre des occasions et des raisons aux gens de dire que les autorités restreignent l'espace public, les autorités, enfin, se donnent dans la dictature, et ces interdictions donnent les raisons aux gens d'épiloguer sur un certain nombre de choses. Mais moi, je n'ai pas trouvé l'utilité de la dernière interdiction. Je ne l'ai même pas trouvé. Quand j'ai vu l'itinéraire, je me suis dit, mais on connaît tous Lomé. Gakpoto, Yesu Vito, là, on traverse là-bas et puis les gens prennent le virage pour aller déposer des gerbes. Ça dérange qui? Ça dérange véritablement qui? Est-ce qu'il y a la présidence de la République là-bas? Il n'y a pas des ambassades là-bas. On a même dit le marché la dernière fois. Donc sur l'itinéraire là, il n'y a plus de marché. Il n'y a plus de camp de police et tout ce qu'on connaît. Donc qu'est-ce qui a véritablement motivé dire justement que ah on a trouvé des corps là-bas et que bon qu'il y a possibilité de bousculade non et que l'endroit là normalement les enquêtes ne sont pas finies et donc il faut rien faire pour le moment. Je crois que c'est pas bien et c'est pas bien pour le fonctionnement de notre pays.
D'accord.
Et pour la démocratie même que nous voulons construire dans le pays.
D'accord. Oui, Jacques, c'est vrai que tout d'abord il devait y avoir une messe, hein, une messe d'hommage également aux victimes, et c'était le 4 août dernier, mais ça a été aussi interdit. Et après tout, pour ce qui concerne la marche pacifique, hein, pour une troisième fois, et on l'a encore interdit. Est-ce que vous arrivez à comprendre?
Non, je crois que je serai à la place, par exemple, des autorités, que je veux encadrer ces marches. Nous avons vu la marche qui s'est déroulée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Yopougon, plus précisément, la semaine passée. On a encadré la marche, il n'y a pas eu de grabuge, rien du tout. Les gens se sont séparés, on n'a même pas appris qu'il y a une arrestation. Je crois qu'il faut qu'on puisse arriver à ce stade également dans notre pays, où on permette effectivement aux gens de pouvoir s'exprimer. Il ne sert à rien de toujours d'interdire. Si vous interdisez, ça ne fait pas bonne presse, au fait. Nous avons suivi un peu les arguments où on disait qu'en traversant peut-être la lagune, les gens peuvent encore tomber dans la lagune. Est-ce que c'est tout ce
Est-ce que c'est des raisons qui tiennent?
Non, justement, ouais. Donc je crois qu'il faut plus chercher des arguments solides que d'avancer ce genre de thèses qui vont plus encore cristalliser les uns et les autres par rapport à cette liberté de manifester. Vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un qui avait sollicité pour un culte et finalement qu'on a également interdit. Et je n'ai pas compris pourquoi les parents aussi ont sollicité une autorisation pour faire, par exemple, le culte. Je n'ai pas compris. Est-ce que faire, par exemple, célébrer mon anniversaire, est-ce que j'ai besoin d'aller demander une autorisation pour le faire?
Je non, mais il semble que, puisque j'ai posé la question justement à professeur David Dosset, et il me disait que, en fait, il semble que on voudrait faire justement cette manifestation d'une manière collective, et pour que toutes les victimes, les victimes alors de ces manifestations, qu'on rende alors hommage à ces victimes, et finalement, comme c'est une manifestation publique, automatiquement, on voudrait demander l'autorisation alors des autorités. C'est pour cela que ça a été introduit.
Oui, donc vous voyez le libellé qui a circulé sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, C'est comme si c'était pour
Jacques Coutoglou.
Voilà, justement, c'est ce ça qu'on on avait cru. On ne savait pas qu'il y avait encore autre chose derrière. Mais tout ça là, Pascal, entre nous, il n'y a pas du tout de souci. C'est-à-dire qu'aller dans une église pour prier, ça n'a pas du tout ça ne crée pas de problème. Qu'on laisse les gens aller prier. Moi, je crois que à un moment donné, il faut libérer les énergies. C'est-à-dire que encadrer les marches, laisser les gens marcher, vous les encadrez. Après la marche, ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à dire, ils vont le faire. Ils se séparent. Mais parce qu'aujourd'hui, Pascal, si on continue toujours par interdire, on ne sait pas où, comment, les gens vont également prendre le contre-pied du gouvernement et aller faire autre chose. Et ça va créer encore d'autres problèmes. Moi, je crois qu'il faudrait que le gouvernement, à un moment donné, puisse ouvrir les vannes pour que les gens puissent dire ce qu'ils ont et dire également. Parce que, Pascal, vous savez, lorsque vous êtes, par exemple, un gouvernement, vous n'avez pas d'opposition, vous avez des problèmes. Parce que vous allez dormir. Il n'y a personne qui puisse tambouriner dans vos oreilles pour dire que dans tel quartier, dans telle ville, il y a un problème. Bon, vous allez dormir et vous risquez même de conduire et peut-être sur des voies cabossées à 100 à l'heure. Et ça va créer des problèmes. Donc je crois qu'il faudrait qu'on puisse, dans notre pays, mettre effectivement les mécanismes, permettre aux gens, aux uns aux autres d'apporter également leur contribution à l'édifice de notre pays. Aujourd'hui, un pays sans opposition, je vous dis que ce pays-là ne va pas très bien fonctionner. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un quelque part qui puisse taper sur les oreilles ou bien taper sur la tête de tel et tel pour dire non, ceci, ça ne va pas. Parce que si vous êtes là, pour vous, ça marche. Ça marche, donc vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne encore vous dire que quelque chose ne marche pas. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faudrait que le gouvernement puisse effectivement ouvrir ces vannes-là et permettre effectivement à l'opposition de pouvoir également manifester. C'est comme une femme que vous avez à la maison, Pascal. C'est-à-dire que du moment où vous êtes là avec la dame, chaque matin elle se réveille, se maquille, vous la voyez, vous dites « Ah, ma chérie, tu es encore belle aujourd'hui. Hein? » Mais quand elle sort, elle revient, dans sa tête, vous ne savez pas ce qu'elle a ramassé pour revenir. Peut-être que l'une de ses copines peut la voir au bureau pour dire « Ah, madame, tu sais, mon mari fait ceci, mais ton mari, l'autre, ne te fait pas ça. » Elle revient, est-ce d'être encore lionne devant vous, s'il n'y a pas vraiment une communication qui passe entre vous. Donc, le plus important aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement puisse avoir une communication saine et fluide avec la cadre de l'opposition. Donc, je crois que s'il y a une communication entre vous, il n'y aura aucun danger, aucun problème. Donc, la base de tout développement, c'est la communication. Si on ne communique pas, Pascal, on aura toujours le problème. Parce que si je suis là, j'ai quelque chose à dire, tu m'empêches de le faire, mais ça, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la femme à la maison. Une femme qui est à la maison, il faut toujours qu'il y ait une communication permanente avec votre femme. S'il n'y a pas une communication permanente avec votre épouse, attendez-vous à tous les dangers.
D'accord.
Donc je crois qu'il est important aujourd'hui que le gouvernement ouvre les vannes, permettre effectivement à l'opposition de pouvoir manifester. Je l'ai dit, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de problème. C'est vrai que le gouvernement avance l'idée que ceux qui ont appelé, par exemple, à la manifestation, s'ils ne sont pas ici, bon, que c'est des gens qu'on ne connaît pas. Mais
non, mais cette fois-ci, c'est des gens qu'on connaît.
Voilà,
bien.
C'est des gens qu'on connaît. Donc, c'est des gens qu'on a bien identifiés, on connaît leur adresse, on connaît leur tout. Donc, permettez à ce que les gens puissent effectivement s'exprimer, dire ce qu'ils ont. Moi, je crois que ça sera même dans l'intérêt du gouvernement.
D'accord.
Et ça sera dans leur intérêt de voir encore les gens dans les rues pour pouvoir dire ce qu'ils ont. Et à partir de ça, ça va permettre au gouvernement de pouvoir prendre encore d'autres décisions pour changer le physique de pôle. Donc, je crois qu'il faut vraiment une ouverture. C'est important.
Merci, Jacques. Oui, c'est vrai que Jacques a rappelé par deux fois, d'ailleurs, ce qui s'est passé dans ce week-end en Côte d'Ivoire. Et on a vu quand même cette marée humaine dans la rue, alors de Yopougon, et dans la capitale, bien sûr, à Abidjan. Mais au-delà de tout, c'est vrai, dans son communiqué, il y a la DMP qui parle des entraves contre la liberté, alors, de manifester dans notre pays. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, est-ce que ces restrictions ne constituent pas quand même un obstacle pour la libre expression dans notre pays?
Mais je vous ai déjà dit que nous tous, nous sommes Togolais et nous vivons dans le pays, nous observons l'actualité du pays. Depuis la modification intervenue en août, hein, si j'ai bonne mémoire encore, août 2019, de la loi sur les réunions et les manifestations publiques, vous avez vu que toutes les demandes de manifestation officiellement introduites à la suite ont été refusées. À part quelques deux meetings qui ont été tenus dernièrement à Kassimé ici, après, toutes les autres manifestations avaient été systématiquement interdites. À partir de ce moment, peut-être que ça participe à une stratégie politique, mais est-ce que c'est la bonne ? Peut-être que ça permet de conserver le pouvoir, mais ce n'est pas quand même ma foi. Moi, je pense que c'est une stratégie qui comporte des dangers. Et l'un des dangers, nous l'avons vu au mois de juin dernier. Je crois, j'avais déjà dit ici que la nouvelle constitution telle qu'elle est écrite par ses tenants, c'est une constitution qui est basée sur le fonctionnement des partis politiques. Aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas supprimé l'opposition. Donc, à partir de ce moment-là, tant qu'on n'a pas supprimé les partis politiques d'opposition dans la Constitution et dans la Charte, il faut les laisser fonctionner. Et donc, qu'est-ce qu'une opposition peut faire dans un pays ? C'est qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose qui se fait. Nous faisons un meeting pour informer notre base. On n'est pas d'accord avec quelque chose qui se fait. Nous organisons une manifestation publique, on marche d'ici là.
Et c'est le droit de l'opposition de le faire ?
Il n'y a que ça qu'on voit pour une opposition dans tous les pays. Dans tous les pays, de droit, je ne veux pas parler de démocratique parce que c'est un autre débat. Dans tous les pays de droit, il n'y a que ça qui reste pour les opposants. S'ils ne peuvent pas marcher d'ici là pour lire leur déclaration, pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ceci, ceci. S'ils ne peuvent même pas aller faire directement un meeting pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ceci, ceci, ceci. À quoi est-ce que vous les envoyez finalement ? À quoi ? À une rébellion armée ou quoi ? Donc, Jacques disait qu'il ne fallait pas laisser les gens que d'autres idées passent par la tête. Il faut appeler les choses par leur nom. Il faut appeler les choses par leur nom. Si l'opposition doit participer et à chaque fois qu'il y a élection, on dit il faut participer. Ah, il faut participer. Des gens qui n'ont fait aucune activité normale sur le terrain. Mais je vous rappelle que même des réunions dans les sièges de partis politiques ont été refusées. Même de simples réunions zonales de partis politiques avaient été refusées. Donc si des gens n'ont rien fait sur le terrain, sur 5 ans par exemple, parce qu'on ne leur a pas permis de faire, est-ce que c'est seulement en 2 semaines, ils peuvent aller mobiliser par magie des gens pour venir voter et que le jour de l'élection, ils puissent avoir des élus ici et là? On a vu les résultats de la dernière fois. C'est peut-être le résultat de tout ce que nous disons ici. Donc, il est clair que cette stratégie de systématiquement tout interdire, meeting, marche, réunion, de systématiquement tout interdire, politiquement, ma foi, c'est pas correct. C'est pas correct et il va falloir justement que les autorités revoient un peu leur stratégie. Parce que quand les gens parlent de restrictions, c'est réel. Si on ne peut pas faire un meeting, on ne peut pas faire une réunion, on ne peut pas marcher. Finalement, qu'est-ce que les gens peuvent faire ? C'est peut-être les blogueurs qui vont prendre la relève pour... vous avez vu la dernière fois depuis l'interdiction, vous avez lu un peu sur les réseaux sociaux. Et donc, ça veut dire que si toutes les manifestations officiellement introduites au niveau des autorités sont interdites, donc les gens se disent être en droit de pouvoir appeler à ce qu'on dit, à une désobéissance civile, à une chienlit. Dans le pays, alors que ça ne va pas rendre service. Là, on est en train de parler des entreprises qui ont mis en place des CFMI et tout ça, qui ont besoin d'un climat apaisé, d'une certaine image du pays à l'extérieur pour que des investisseurs aussi viennent et tout ça. Mais si des décisions politiques peuvent être en dichotomie avec des projets aussi prometteurs que le CFMI, comme d'autres, comme le PIA et comme d'autres, ma foi, c'est pas bien pour la politique même du président du conseil aujourd'hui, c'est pas bien pour sa politique. Donc il faut des fois savoir manier et le bâton et la carotte. Et le bâton, on peut interdire aujourd'hui, demain permettre de faire. Après dire la dernière fois on vous avait autorisé de faire, mais cette fois les raisons ne vont pas manquer pour interdire. Mais systématiquement interdire là, c'est même pas bien pour le pays et pour l'image du pays et pour la politique que prône le président du Conseil.
D'accord. Oui, Jacques, c'est vrai qu'à la deuxième interdiction, l'une des raisons évoquées, ça a été le fait que le processus électoral est en cours et que les résultats définitifs ne sont pas encore donnés. Mais depuis mercredi, on sait que les résultats de ces municipales ont été donnés. Parlons-en, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne alors les résultats, ce n'est qu'une confirmation même d'ailleurs des résultats provisoires donnés par la CENI. Quelle leçon nous devons tirer de tout ce processus électoral, Jacques?
Non, je crois que, Pascal, vous savez, parlant par exemple du refus systématique de des marches, aujourd'hui, unir à tout, unir à l'Assemblée nationale, le Sénat, aujourd'hui on parle des mairies,
des communes,
c'est le parti unir qui a tout. Bon, je ne vois pas quel est le problème. Il n'y a aucun problème aujourd'hui qu'on puisse avoir encore peur de quelque chose. Mais là où ça fait mal, Pascal, là où ça fait mal, c'est ce que Didier disait tout à l'heure. On ne peut pas imaginer qu'on puisse avoir une opposition dans un pays et qu'on refuse systématiquement à cette opposition de mener à bien ses activités et que c'est des gens à l'étranger qui appellent et à Lomé, à l'intérieur, les gens se mobilisent. Vous voyez que c'est un danger pour le pays. C'est très dangereux. Il faudrait que le gouvernement puisse réfléchir à cette façon de faire. Parce que quelqu'un peut être à l'étranger, Pascal, et dire aux gens de fuir la capitale, aller se jeter dans la mer. Les gens vont le faire. Les gens le feront. On peut vous dire que, bon, attention, les gens là sont en train de venir vers le nord ou le sud. Commencez pas à courir. Les gens vont se mettre à courir. Donc, il faut éviter ce danger-là. Il faut éviter ça en permettant à ceux qui sont à l'intérieur du pays de pouvoir s'organiser politiquement et aider effectivement cette frange-là aujourd'hui qui crée des problèmes au sein des populations. Parce que, Pascal, on le dit, les gens étaient surpris que l'appel vienne de l'extérieur. Et les gens ont répondu. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et à la fin, on a cherché à aller vers l'étranger pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Alors que ça ne devait pas être comme ça, Pascal. Ça ne devait pas être comme ça. Moi, je suis peiné qu'on puisse assister à ce genre de choses alors qu'on a des leaders qu'on a affaiblis dans le pays aujourd'hui parce que il faut également le retenir. C'est parce que ces leaders-là sont affaiblis aujourd'hui à l'interne qu'aujourd'hui le relais a été donné à l'étranger et qu'aujourd'hui les gens lancent des appels et que ces appels-là aient aujourd'hui écho dans le pays. Moi, je crois qu'il faut vraiment changer rapidement cette façon de faire. Permettre effectivement à l'opposition qui est là de pouvoir exercer aujourd'hui leurs droits par rapport aux activités qu'ils doivent mener. Mais si on va laisser, par exemple, les appels venir de l'étranger, Pascal, le gouvernement même ne pourra pas aussi, le gouvernement ne pourra pas contrôler et contenir ce qui se passe. Parce que, vous voyez, c'est comme une guerre asymétrique. C'est-à-dire que vous êtes là, vous ne savez pas d'où vient l'ennemi. Vous êtes là, vous t'apposez seulement. On vous dit, bon, l'ennemi, il est vers Bé, vous courez, alors que l'ennemi est à Gouet. Vous ratez les cibles, quoi. Donc, je crois que, plaise à Dieu que bientôt le gouvernement qu'on va mettre sur pied, que ce gouvernement-là puisse ouvrir les libertés, laisser cette liberté à l'opposition, de pouvoir également s'organiser et jouer pleinement leur rôle. Comme je l'ai dit, on ne peut jamais avoir une démocratie, un pays sans opposition qui puisse tout le temps dire au gouvernement ce qui ne va pas. C'est à l'opposition de dire au gouvernement ce qui ne va pas. Et le gouvernement essaie maintenant de corriger les lacunes de ce qui ne va pas dans un pays. Mais affaiblir l'opposition dans un pays, ce n'est pas du tout bien, Pascal.
D'accord. Oui, c'est vrai que je voudrais qu'on se prononce un peu sur les résultats de ces municipales. Et pour vous, quelles leçons aujourd'hui nous devons tirer alors de ces résultats et même du processus électoral en entier?
Non, leçon, s'il y a leçon, on a fait le constat de ce que le parti au pouvoir, le Parti Uni va avoir peut-être plus de 110 communes et que le reste des 7-là, si on a la chance, on va voir les partis politiques se, voilà, avoir une commune par ici. Mais même ça, là, sur les 7, je doute encore. Parce que quand vous voyez les résultats et la configuration et de tout, le parti unir est parti pour tout prendre pratiquement. Pour tout prendre. À part Tovia et quelques... Même nos amis de l'UFC n'ont pas grand-chose.
Mais il y a l'ANC qui a quelque chose.
Oui, mais là, les gens disent qu'ils doivent négocier avec qui, vous savez, s'ils veulent garder ici, surtout là où nous sommes. C'est très compliqué. Donc, à partir de là, c'est vous comprenez que le Parti Uni va contrôler la quasi-totalité des mairies que nous avons. Eh bien, peut-être, c'est parce qu'ils ont travaillé, je suppose. Parce qu'ils ont travaillé et que les électeurs ont compris ou ont estimé qu'ils ont bien travaillé, qu'il faut leur faire confiance et qu'il faut. Mais il faut dire que les élections municipales s'inscrivaient dans une logique, dans une suite d'événements. La suite, c'était quoi? Il y avait la modification de la Constitution et qui était devenue un peu comme... devenu un sujet de bras de fer entre pouvoir et opposition. Et dans la foulée, il fallait organiser les élections législatives et régionales. Et les gens, vous savez, je ne vous apprends rien, vous savez comment est-ce que ces élections avaient été organisées, le débat qui avait suivi, et puis la campagne qui a suivi, et la mobilisation qu'il y a eu, pour que justement, les gens puissent voter, et que le PC soit, donc vous comprenez. C'est la même logique qui se suit. Vous avez vu la campagne, vous avez suivi un peu les arguments de campagne des uns et des autres. Les gens n'ont pas battu campagne pour le développement des communes. Mais des gens sont partis battre campagne au nom du président du conseil pour que, justement, le président du conseil puisse continuer d'avoir la force, enfin pour dire, pour plébisciter le président du conseil. Et là, les arguments pour nos quartiers n'ont pas prévalu à ces élections. Donc, c'était une élection basée sur le parti politique et beaucoup plus sur la personne du président du conseil. Et à partir de ce moment-là, les électeurs étaient allés dans ce sens.
On parle de gouvernance locale.
Justement, et je regrette que pour l'heure, nous ne sommes pas encore à cette étape. Nous sommes d'abord à l'étape de consolidation du pouvoir et de plébisciter le président du conseil le temps que le développement lui vienne après. Parce que les élections, on avait dit ici dans d'autres pays, les élections locales, vous comprenez comment ça se fait ailleurs. Mais ici chez nous, on a voulu que ça soit encore une affaire de parti politique. Et justement, pour pas de parti politique, mais vous voyez, le Parti Uni ne veut pas perdre. Et ils ont justement allé à ces élections-là pour prendre 1150 sur 1527 possibles. Et tout le reste là, bon, vous avez vu comment on a partagé 51 pour les autres, 38, 33 et tout ça, jusqu'à la fin. Et puis, bon, certains sont revenus avec un ou deux conseillers, juste pour ça. Donc, c'est bien, les résultats sont là, ça nous donne ça, mais il n'y a pas grand enseignement à signaler. J'avais déjà dit ici que si les partis politiques n'ont pas accès au terrain pour leurs activités, pour faire la mobilisation, pour entretenir leur base, leur fédération, expliquer un certain nombre de choses dans le fonctionnement du pays, dans la gouvernance du pays, à leur base, à leurs militants, à la base, s'ils sont systématiquement empêchés. Et qu'en 2 semaines, vous pensez qu'un parti politique d'opposition au Togo, qui est opposition depuis 30 ans, même le parti politique UFC, qui a un accord de gouvernance avec le parti au pouvoir, vous pensez qu'ils ont les moyens de couvrir tout le territoire national en 2 semaines pour dire qu'ils battent campagne et qu'ils peuvent convaincre véritablement les électeurs, aller dans tous les hameaux possibles pour toucher les électeurs? Je ne crois pas. Ils vont peut-être faire quelques villes, mais dans les hameaux, puisqu'on ne vous a pas vu, on a vu que Unir, on va voter Unir. Et vous avez vu que le taux de participation de la dernière élection, les élections municipales, le taux de participation est beaucoup plus élevé dans les milieux ruraux où les opposants n'ont pas accès. Là, il y a le taux était véritablement élevé, alors que vous avez vu pour les grandes villes, notamment Lomé et tout ça, Lomé par exemple était autour de 11%, et dans les autres villes on était autour de 30-40% par là, mais dans les hameaux les plus reculés, là où il faut aller plutôt normalement chercher les électeurs, ils sont voilà vers 90-97, voilà. Mais c'est des endroits où généralement les opposants n'ont pas accès. Donc à partir de ce moment-là, quel miracle peut-on s'attendre de la part de ces opposants-là? Jacques le disait, qu'on a affaibli, qu'on a muselé et qu'on empêche systématiquement de mener des activités.
D'accord, oui, Jacques, c'est vrai que vous le disiez, que des leaders politiques sont affaiblis aujourd'hui. Ça se passe aussi ailleurs. Quand on prend le Tchad, puisque parlons-en, avec cette condamnation du leader de l'opposition, je veux bien parler alors de Success Masra, qui a été condamné à 20 ans de prison. Comment on pourra analyser cela, Jacques?
Non, vous m'excusez peut-être d'être un peu méchant, mais je crois que Success Masra a cherché, il a trouvé. Il a cherché, il a trouvé. Vous savez, sa collaboration avec Itno, fils, nous tous, on savait comment ça s'est passé. Vous voyez comment il a neutralisé même son propre neveu ou bien oncle. Oncle, voilà. Ah, oui. Il fallait s'attendre à ce genre de choses. Il fallait s'y attendre. Je crois que s'il restait opposant, s'il ne participait pas, il n'aura pas ce genre d'ennui. Et puis, autre aspect, vous savez qu'aujourd'hui, au Tchad, il n'y a plus d'opposition. C'est le seul, effectivement, qui restait. Donc, c'est le seul, il fallait le neutraliser. Et vous voyez ce qui se passe en Afrique, je ne sais pas si...
Mais entre-temps, il a été Premier ministre, hein,
oui,
du nouveau président.
Oui, on sait que ça, c'était Macron qui avait macronisé tout ça pour qu'il soit Premier ministre, là, on le savait. Et on sait la suite aujourd'hui. Parce que Macron n'est plus d'auteur de sainteté avec Déby fils. Donc, finalement, il a profité pour neutraliser Sisra Masra. Je crois que... Et puis, l'autre aspect, je ne sais pas quels sont ces juges en Afrique. Lorsqu'on veut, par exemple, condamner un opposant, c'est toujours 20 ans. Vous n'allez pas voir 5 ans, 3 ans, mais toujours c'est 20 ans. C'est-à-dire que...
Mais est-ce que ce n'est pas pour réduire, le neutraliser comme
ça? Oui, mais c'est ça. C'est pour neutraliser les opposants. Donc, je crois que hier, les gens s'attendaient, comme aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance au Tchad. Les gens s'y attendaient que peut-être il va lui gracier, mais cela n'a pas été fait. Qu'il prenne son mal en patience. Peut-être que dans les années à venir, peut-être qu'en négociant, et si par exemple Macron passe par des passerelles, peut-être qu'on peut réduire sa peine ou soit le libérer. Mais c'est quand même un peu triste en Afrique. Lorsque quelqu'un veut par exemple émerger un peu, on lui tape dessus. Vous voyez ce qui s'est passé.
Mais est-ce que c'est aussi une politique à l'africaine?
Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est-à-dire que c'est des choix, au fait. C'est des choix aussi des opposants. Il faut savoir faire des choix. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, un mauvais choix, attendez-vous également un mauvais résultat.
D'accord. Alors, c'est vrai, disait, vous pouvez vous prononcer alors sur le sujet dans la deuxième partie, puisque notre temps est déjà avancé. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. C'est sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75. Et mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 96. Retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Bien sûr, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir et s'exprimer sur des sujets discutés ici au Club de la Presse. Alors, premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, c'est Bozambo.
Bozambo.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, mes frères du plateau.
Oui, allez-y.
L'Afrique, là, ça fait mal, et une histoire, ça nous fait mal. Donc, on a dit à CDAO qu'on doit limiter le mandat à deux. Les talents à respecter. Donc, les gens pris en prison, les gens. Donc, c'est Macron qui est le président de l'Afrique. Donc, c'est lui seul qui va donner le ton. On va libérer les prisonniers politiques. Ça me fait honte. Si vous prenez la route de Lomé à Thierrier, il y avait des accidents tous les jours. Hier, on a écrasé une dame. Donc, je vois, si je vais à Thierrier, je vois quelque chose qui ne nous n'ont pas. Et il y avait des routières BM, on appelle la BM, qui font la sécurité. Donc, les chauffeurs ne peuvent pas garer n'importe quoi. Donc, je prie à la mairie de Thierrier, ils n'ont qu'à faire arrêt bus, arrêt taxi à Thierrier. Donc, ça cause beaucoup de l'accident. À la nuit, la DS est bien.
Allô, Bozambo.
Oui.
Oui, mais nous avons parlé de beaucoup de sujets dans cette émission. Je voudrais plutôt que vous vous prononciez sur des sujets discutés ici au Club de la Presse.
Je n'écoute pas votre retour. Hein.
Ah ben, vous n'avez pas de retour. Je dis, nous avons parlé de beaucoup de sujets ici au Club de la Presse. Vous nous avez suivis ?
Oui.
Oui, mais oui, je voudrais que vous vous prononciez plutôt alors sur des sujets discutés.
Il y avait des mots parce que quelque part, on doit réveiller les autorités parmi votre émission.
D'accord. Merci beaucoup, Bozambo. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Oui, bonjour, chef.
Bonjour, Sylvain.
Sylvain. Je n'ai pas le retour, mais je vais essayer quand même.
D'accord, allez-y.
Intervenir. Et je salue les invités que vous avez reçus aujourd'hui. Il faut que le message passe pour cette jeunesse-là, en désarroi. Effectivement, il faut que le message passe. Mais souvent, c'est comme on a l'impression qu'on n'est pas informé. Et ils ont pris l'initiative. Et moi, je voudrais dire bon vent.
Merci beaucoup, Sylvain.
Pour ce qui concerne les raisons avancées pour interdire cette dernière marche, franchement, on ne comprend pas. Manifestation pacifique, on dit non. Et manifestation silencieuse, on dit non. Peut-être, je ne sais pas quel adjectif qualificatif on va utiliser, ils vont accepter. Peut-être spontané, violent. Finalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il faut laisser les gens s'exprimer. On vous frappe et on vous dit de ne pas pleurer. Ce n'est pas possible dans une république. La plus forte raison, une cinquième république. Merci.
Merci beaucoup, Sylvain, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Allô, bonjour.
Ah, bonjour.
C'est madame ici.
Je crois que ton move là, j'ai appelé la semaine dernière, c'est parti chez une dame. Et là maintenant, j'appelle, mais tu décroches pas. Mais bon. Bon, on est encore dessus, quoi. À discuter de la même chose, il dépend du développement, de notre bien-être. Et j'ai fait un coucou à ça, c'est à tout le monde, pour commencer. Et puis, pourquoi on nous fait ça? Le président nous fait ça. En arrivant en 2005, il nous a promis faire les réformes démocratiques en 2008, non, 3 ans après, non. APG 2015, c'est fini et tout. Et pourquoi il nous fait ça, ce truc-là? Aucun développement. On n'a même pas de l'eau à boire dans la capitale. On n'a rien. La précarité. Il a pris tout un pays en otage. Et nous avec. Hein? On est devenu la marchandise dans une république. Il a transformé en son épicerie. Non! Les élections sont braquées. Tout est braqué. Est-ce qu'on braque aussi? On fraude aussi les locales dans une république. Est-ce qu'on doit frauder? Vous avez gouverné toute la vie sans rien nous faire. Et maintenant, les locales, au lieu de libérer ça, ils ont encore pris 98% alors qu'ils arrivent à rien nous faire. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Et le pays est pris en otage. Rien ne bouge. À Odeni, le Wagbori, ce n'est pas leur bien. Le Togo n'est pas le bien du régime. Je ne suis pas d'accord. Merci.
C'est votre droit, madame, ici, de ne pas être d'accord. 90, 86, 35, 35. Allô?
Basile, comment?
Oui, Basile, ça ne va pas, la grâce de Dieu est chez vous?
Non, c'est vous l'aide,
d'accord, allez-y.
Bon, moi, quand J'écoute nos confrères, vos confrères. Moi, je ne suis pas journaliste. D'abord, ils savent quand même avant de dire. Je pense que tout le monde, quand ça vient d'en haut, tout le monde protège sa tête. Il ne gagne pas une élection au Togo. Non, c'est ce que vous devez savoir. Qu'il a tout gagné, il fait tout ça là. Non, ce n'est pas ça qui compte. Celui qui gagne une élection dans un pays comme ça, il souffre, leur chef peut souffrir des bains de poule partout où il passe, comme au Bénin, Talon le fait, un peu partout, tout ça se fait. Mais vous savez que il est devenu, comment vous l'appelez, président de quoi, ben, je ne sais pas. Et s'il doit passer, Mouchi même ne doit pas être sur une route. Mais c'est celui qui gagne toutes les élections dans le pays. C'est ce que moi, quand vous venez, vous faites ça. Bon, je sais que vous vous protégez, mais c'est bien. C'est bien de vous protéger, mais pendant ce temps, vous êtes en train d'enfoncer en même temps le peuple aussi. C'est ce qui est, c'est là où c'est un couteau à double tranchant. Quand vous vous protégez comme ça, vous enfoncez le peuple. Voilà, c'est ce que moi je veux vous dire. Celui qui gagne une élection comme ça dans un pays doit souffrir des bains de foule en désordre dans le pays. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Pélé.
Oui.
Allez-y.
Ok, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Ok, bon. Encore une élection vient de passer. Et on nous fait comprendre que c'est une qui est à 98%. Maintenant, quand un pouvoir, c'est-à-dire un parti au pouvoir à 98%, et les deux puissants veulent marcher, ils refusent. Deux puissants seulement, hein. Ils veulent marcher, et ils refusent. Vous voyez ça? Bon, ce qui se passe en Côte d'Ivoire par rapport au Togo, les gens vont faire la comparaison. Moi, je dis que le Togo s'est levé depuis avant que la Côte d'Ivoire s'est levée. Et s'il faut prendre le soulèvement pour prendre le pouvoir, je pense que le Togo sera le premier. Donc, ce qui préoccupe, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir exécutif, c'est pour la France. Le pouvoir exécutif dans un pays, parce que c'est dans le pays par le fond, là, c'est pour la France. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, par la stratégie de la France, je pense que ils acceptent au Togo les gens sur la liste. En Côte d'Ivoire, ils refusent les gens sur la liste, mais ils acceptent de marcher. Au Togo, on refuse de ne pas marcher. Vous voyez la stratégie? Et aujourd'hui, c'est quoi? La France ne peut plus supporter le pouvoir exécutif, l'éducateur, qui veut prendre le pouvoir par l'exécutif. C'est pourquoi on les ordonne maintenant de ne plus accepter les candidats potentiels sur leur liste. C'est carrément, vous allez voir, le Cameroun, le Tchad, c'est-à-dire on te prend en prison 20 ans. Et c'est ça. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire maintenant, on te dit, mais Gbagbo, toi tu es là, donc tu ne dois pas être sur la liste. C'est comme ça qu'ils ont changé la stratégie. Tous les candidats potentiels là, nous serons tous sur la liste. Parce que la France ne peut pas les soutenir. Donc il faut, soit vous allez faire tout possible pour aller à un régime parlementaire à la française et éliminer les élections présidentielles, ou soit vous éliminez vos candidats potentiels, ça vous pouvez être, vous prenez vos engagements. C'est toujours stratégie. C'est la stratégie que la France a émise seulement au dictateur maintenant. Donc il faut qu'on soit vigilant pour savoir que la lutte qui est en face de nous aujourd'hui, la politique aujourd'hui, c'est le combat.
D'accord. Merci, merci Pélé. Nous avons encore quelques minutes, puisque Michel me fait signe que nous avons quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, grand-père.
C'est Benoît?
Oui, c'est moi.
Voilà, Benoît Dagouet. Oui. Allez-y.
Moi, je ne comprends pas. Notre pays, le Togo. On dit travail, liberté et patrie. Il n'y a pas le travail, mais il y a le travail, mais où est la liberté? Il faut laisser les gens s'exprimer. Ils ont tout pris. On a laissé les gens marcher dans ce pays pendant un an ou bien cinq ans, je ne sais pas trop, avant la sortie de M. Tipi. Mais écoutez, si les gens refusent, ils disent que non, ils ont le pouvoir. Si moi, à la place du président du conseil, je vais laisser les gens demander les maires de sortir. On va les encadrer, même les appeler à chercher des moyens pour tourner des barricades ou bien des choses pour entourer le quatrième lac. Maintenant, vous avez tout, vous dites non, que le pays est en quoi, on manque de paix, on va autoriser. C'est comme si, je me dis, hein, un jour viendra. Et il ne faut pas qu'on baisse les bras. Le Seigneur même sait que nous sommes capables de supporter le unir. Un jour viendra. Et tout le monde verra.
Merci beaucoup, Benoît Dagoué. Et Benoît, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Merci à vous tous pour votre contribution à ce débat. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à cette émission. Jacques, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité. Et c'est le principe de l'émission, bien sûr. Et aussi, ça contribue à ce débat contradictoire que nous aimons quand même animer.
Non, je crois que, vous savez, les autorités devaient être fières de ce genre de débat qui se déroule sur les médias de notre pays et essayer de puiser ce qui se passe et les plaintes de nos compatriotes pour pouvoir régler certains problèmes. Je crois que c'est toujours une bonne chose. C'est-à-dire que lorsque vous laissez quelqu'un parler, Pascal, je vous dis que la personne vide tout ce qu'elle a et puis finalement vous allez vous retrouver et parler. Vous voyez, donc je crois que je reviens encore à la femme, parce que lorsque vous avez une dispute avec votre femme à la maison, la femme parle, vous parlez, elle parle, vous parlez, vous ne savez pas faire, vous allez lever toute la main sur elle et vous allez créer des dégâts. Donc quand la femme parle, laissez-la. Quand elle va vider sa gibecière, après vous aurez le temps d'en parler. Donc je crois qu'il faudrait que le gouvernement soit dans cette logique. Écoutez par exemple ce que les populations disent, essayez de s'asseoir et corriger tout ce que les populations disent et venir également subvenir par exemple à leurs besoins. Parce que la population demande quoi? L'eau, l'électricité et les routes. C'est-à-dire que quand tu es malade,
des besoins de base.
Ça c'est les besoins basiques effectivement des populations. Les populations ne demandent pas trop au gouvernement. Donc je crois qu'il faudrait que le gouvernement se mette rapidement au travail. Et comme on le dit, essayer de corriger effectivement ces inégalités-là et mettre le pays sur les rails pour une prospérité pour nous tous.
Merci beaucoup, Jacques. Oui, disiez.
Non, Jacques disait que les autorités devraient être fiers de ce genre d'émission. Moi, je dirais plutôt que les services, tu me permettras la tautologie, qui rendent service aux autorités doivent écouter ces émissions-là au fond, voir quels sont les fonds des analyses que les uns et les autres font pour tirer plutôt le bien de ces analyses-là pour permettre aux autorités de savoir comment réorienter leur stratégie plutôt que, de faire des analyses superficielles de ce que les gens disent, ou tel est opposant, ou tel est si, de voir plutôt le fond et les propositions contenues dans les analyses et développements, ça aiderait plutôt les autorités. Et puisqu'on parle des autorités, on a déjà connu les résultats des élections municipales. Je pense que c'est ce à quoi on s'attendait. Et je crois maintenant que le pays a besoin qu'on ait un nouveau gouvernement. Ça va aider les hommes d'affaires. Ça va aider à ce que les activités reprennent dans le pays. Tout le monde constate que les choses sont comme au point mort actuellement dans le pays. Un nouveau gouvernement pourra donner un nouveau souffle à l'activité économique et à tous les autres secteurs du pays. Ça va être le bonheur de Togolais que je suis. Que mon pays connaisse un nouveau gouvernement, puisque l'autre est démissionnaire depuis plus de 3 mois. C'est nouveau dans le pays, c'est pas si bien.
D'accord. Merci beaucoup, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Gozo, c'est vrai, nous allons mettre fin à l'émission. Il y a Sylvain qui vous a interpellé entre-temps. C'est vrai, il a apprécié quand même cette communication. Il demande qu'il y ait plus de communication autour alors du centre. Et au-delà de tout, si vous avez un contact à donner pour que les uns et les autres puissent alors vous appeler pour l'inscription, quel est ce contact?
C'est le 93 23 61 06, ou le 90 27 83 22, le 70 34 23-23.
Merci beaucoup.
Le CFMI, dans la zone portuaire.
Dans la zone portuaire. Madame, un mot pour terminer cette émission?
Oui, j'invite les bacheliers, ceux qui ont eu le BPC, j'invite tout le monde à venir s'inscrire. Surtout les inscriptions commencées depuis le 25 juillet et se terminent le 3 septembre. Donc, courez vite, le concours c'est pour bientôt. Donc, dépêchez-vous à vous inscrire et passer le concours et faire être accueillis au CFMI. Nous vous attendons.
D'accord, merci. Vous les attendez. Je rappelle que vous êtes la responsable de l'unité de relations avec les entreprises au centre de formation au métier de l'industrie. Vous êtes Bernice Yesso Olu Adara, c'est ça le nom. Je suis arrivé quand même à le prononcer. Merci. Merci à vous. Directeur, merci. Hein, Jules Anani Gozo, merci d'être passé dans cette émission. Merci. Jacques Takouti, merci d'être passé.
Merci, Pascal.
Dans cette émission, ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous êtes analyste politique, journaliste aussi. Didier Sogba, merci d'être passé dans cette émission. Journaliste, directeur de publication du journal Togo Breaking News, un journal en ligne. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez aussi appelés pour vos diverses contributions à ce débat. Michel Tomega était à la mise en onde. Jérôme Dakouta assurait la mise en ligne. Je suis Pascal Oussou. Je vous retrouve demain, mardi, mais cette fois-ci, comme nous l'annoncions déjà dans le cadre alors de notre anniversaire, demain nous serons dans le marché de Cacavelli pour nos émissions publiques et c'est de 9h à 15h. Soyez toujours à l'écoute pour nous suivre en direct depuis le marché de Cacavelli des Kaorossimé. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, et une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.